Donc, la dernière fois, on avait vu la passion et la résurrection en se calant vraiment sur les évangiles, donc plus dans les événements et ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, alors pour une fois, on n'est pas complètement calé sur les évangiles. On prend une petite hauteur de vue pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué dans la croix et la résurrection du Christ. Donc, surtout la croix, mais en fait, c'est quand même un ensemble. Et donc, la rédemption, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait notre salut. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui réellement, dans les relations entre l'homme et Dieu. Alors la première partie, c'est qu'on souvent on parle de l'amour du Christ et le fait qu'il était un homme parfait. Mais si ça avait suffi, il y aurait eu que l'incarnation et pas forcément la croix. Donc c'est probablement qu'il se joue autre chose aussi dans la croix. Et on peut se poser la question, effectivement, de en quoi la mort d'un innocent sert. Il y en a eu d'autres avant. Enfin, peut-être pas complètement innocent, parce que pas son péché complètement, mais voilà, et c'est pas forcément ça qui a changé la donne. Si on pense à saint Paul, pour lui, il a vraiment sa conversion, tourne autour du drame de la croix. Le Christ s'est incarné pour la croix, et cette croix avec la résurrection constitue le premier et le dernier mot de sa prédication. Il dit « Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. » Et dans une autre partie de cette lettre aux Corinthiens, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. » Donc il y a quelque chose d'assez central, et c'est l'expérience qu'il a faite sur la route de Damas. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ce mystère à la fois évident. Alors, curieusement, on n'est pas du tout comme dans l'incarnation. Il n'y a pas eu de concile, de grande hérésie sur le sujet et de débat. Finalement, il y a une forme d'évidence que c'est réellement, il s'agit de la rédemption et du salut. Mais on peut dire aussi que ce n'est pas pour ça qu'on a une formule simple pour décrire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est joué. Donc, il reste toujours à le contempler et finalement peut-être à le réinterpréter. On ne va pas arriver à quelque chose comme sur l'incarnation Jésus-Christ, une personne et deux natures. D'un côté définitif, c'est posé là. Mais quelque chose de plus subtil. Et c'est d'ailleurs bien que ce ne soit pas trop simplificateur, parce que sinon le danger est grand de faire juste une rédemption à notre portée et finalement de ne pas considérer ce que Dieu a voulu et ce que Dieu a opéré. Alors en fait, on va cette fois-ci pas trop se caler, enfin il y a quand même des passages d'évangile, mais c'est principalement sur saint Paul, saint Jean un peu, notamment ses lettres, et puis surtout la lettre aux Hébreux, que je vous invite à relire en ce temps de passion, puisqu'elle est quand même très éclairante. Et dans saint Paul, on va surtout parler de Romains, mais il y a aussi des passages sur Corinthiens, Colossiens, enfin il y en a un peu partout, mais bon, il y a beaucoup Romains, Romains 5, 6. Alors, le premier aperçu qu'on va faire, c'est un peu revoir les différentes images pour décrire ce qui s'est passé, pour présenter la rédemption. Donc, le premier élément, c'est le sacrifice en rémission des péchés. Donc, c'est dans la première de saint Jean. Voilà en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Donc, la mort de Jésus sur la croix est un sacrifice d'expiation, qui rappelle le sacrifice de l'Ancien Testament, mais ces sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament n'étaient que des figures plutôt inefficaces, puisqu'on devait les refaire régulièrement, et finalement pas aboutis, alors que le sacrifice ou le corps du Christ serait l'objet de l'immolation, qui serait à la fois l'objet de l'immolation, donc la victime, mais aussi le prêtre, et lui parfait ou définitif. Donc tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Donc là, on a déjà le thème de restaurer la relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Donc le sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament, c'est un rite de guérison, de revivification, où l'homme est guéri au plus profond de lui-même par le pardon des péchés. Et donc l'effusion de sang qui accompagnait ce sacrifice a deux effets. Inaugurer la présence de Dieu, c'est-à-dire la vie, le sang c'est symbole de la vie, et puis purifier du péché. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon, nous dit Hébreux 9, 22. Alors, dans le texte de l'Exode, c'est comme ça que c'est décrit. Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Et donc, on a bien ce sang de l'alliance qui scelle l'alliance, le sang du sacrifice. Et dans l'Eucharistie, la nouvelle alliance est liée au sang, puisqu'on a aussi le sang répandu et le vin transformé en sang. Et donc, c'est capital dans l'œuvre de la rédemption de Christ. Et Éphésiens nous dit, en lui, nous, enfin, la lettre aux Éphésiens, on nous dit, en lui, nous trouvons la rédemption par son sang. Donc, je vous rappelle ce que il me semble que je vous l'ai déjà un peu dit la dernière fois. Le sacrifice n'est pas d'abord une immolation, mais une offrande. Et la véritable offrande est l'offrande de ce que l'on est. Donc, même dans l'Ancien Testament, le sacrifice véritable, c'est l'obéissance et la loi de Dieu. C'est ce qu'on dit tous, beaucoup de prophètes, comme Osée, par exemple. Voilà, où c'est de remettre le cœur de ce qu'est ce sacrifice. Et ce que nous dit Hébreux 8, tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre, donc le Christ, ait lui aussi quelque chose à offrir. Donc voilà, cette offrande, enfin, ce sacrifice, il est l'offrande de toute sa vie, et donc il faut offrir quelque chose. Et Jésus est à la fois le prêtre et la victime, il s'est offert lui-même. Je vous rappelle que Jésus est mort au moment où dans le temple sont immolés les agneaux pascal, d'après la chronologie de Saint Jean. Et l'agneau pascal est immolé pour que son sang répandu sur le linteau et les montants de la porte soit efficace en évitant à la maison le passage de l'ange exterminateur qui a frappé les premiers-nés en Égypte. Donc le Christ, lui, se donne lui-même comme le véritable agneau, instituant ainsi sa Pâque. Il est l'agneau immolé, un agneau parfait, car innocent, sans péché. D'ailleurs, dans la magnifique mosaïque qui est Bon Conseil, on a le Christ qui est effectivement l'agneau sur les genoux du Père. Je vous ai mis un passage de Benoît XVI dans Jésus de Nazareth. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas cité, donc voilà. Dans l'échange de Jésus avec son Père lors de la prière sacerdotale, le rituel du jour de l'expiation, il met la référence de Lévitique, est transformé en prière. Devient tangible le renouvellement du culte auquel visait la purification du temple et les paroles prononcées par Jésus pour expliquer cet événement. Les sacrifices d'animaux sont dépassés, le sacrifice comme parole prend leur place. Elle est plus que parole parce que cette parole éternelle a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. » La parole est chair, bien plus elle est un corps donné, elle est un sang versé. Avec l'institution de l'Eucharistie, Jésus transforme son être tué en parole dans la radicalité de son amour qui se donne jusqu'à la mort. Donc il fait le parallèle entre donc la victime qui s'offre et qui, en plus, ses paroles. Donc on a aussi les paroles de la consécration et donc les paroles qui accompagnent le sacrifice de tous les sacrements. La deuxième image, en rançon pour le salut du monde. Donc, c'est vrai que dans la première partie, j'ai mis en rémission des péchés. Donc on a le parallèle avec le pardon des péchés. Là, on est plutôt sur le salut du monde. Donc là, on élargit encore notre champ, notre perspective de ce qui se joue. Et on aborde la question du monde versus des Juifs. Donc Jésus lui-même l'a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc c'est précisément en rançon pour la multitude les paroles de Jésus. Saint Paul dira, il y a un unique médiateur. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage. La lettre aux Hébreux utilise le mot de rachat pour parler du salut et du retour à l'ordre initial, à l'héritage jadis promis. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, donc le rachat des péchés, on va dire. Et ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Donc l'héritage éternel, c'est cette idée de vie éternelle et donc de salut. Donc c'est non seulement la rémission des péchés, pardon complet des péchés, mais c'est aussi l'ouverture vers la vie, en l'occurrence la vie en Dieu, on verra ça un peu plus tard, mais en tout cas quelque chose de la vie éternelle. Ce n'est pas juste une restauration de la situation d'avant, une réparation, mais ça va plus loin puisque ça ouvre sur de nouvelles perspectives. Alors saint Paul met en avant l'aspect onéreux de ce rachat, le coût élevé. Dans Colossiens, il dit « Il a effacé le billet de la dette qui nous accabla en raison des prescriptions légales pesant sur nous. » Il l'a annulé en le clouant à la croix. Donc ça, c'est vraiment une image où quand les gens avaient des grandes dettes, il paraît que c'était mis sur la place publique. Et puis, quand la dette était payée, on enlevait le billet qui était proclamé. Voilà. Donc c'est un peu cette idée-là. Il l'a annulée en la clouant sur la croix et donc elle est rendue. Voilà. Plus l'homme est éloigné de Dieu, moins ce retour est facile. Donc c'est pas que Dieu veut quelque chose de pénible, mais c'est que le péché a rendu l'homme ochylosé et le fait vivre dans un monde marqué par le mal. Et du coup, traverser cet état pour donner à Dieu toute sa place dans notre vie devient immensément onéreux. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné tellement de Dieu et on s'est tellement déshabitué d'être avec Dieu que c'est compliqué de revenir, en tout cas pour l'homme. C'est ce prix-là que Jésus a payé pour nous. Il a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. C'est aussi dans l'hébreu. On pourrait penser aussi à l'hymne aux Philippiens. Il s'agit de renouer des liens que le péché a fait défait. On peut parler de la remise de dette. Tout est payé par le Christ et la dette est annulée. Alors, on peut se demander à qui est payée la dette. Donc là, je vous mets un passage de Grégoire de Nassiance qui essaye d'expliquer cette chose-là. Le sang répandu pour nous, sang très précieux et glorieux de Dieu, ce sang du sanctificateur et du sacrifice, pourquoi fut-il versé et à qui fut-il offert ? Nous étions sous la domination du démon, vendus au péché, après avoir acquis la corruption par notre concupiscence. Si le prix de notre rançon est payé à celui qui nous tient sous son pouvoir, je demande à qui et pour quelle raison est offert un tel prix ? S'il est offert au démon, combien c'est outrageant ? Le brigand reçoit le prix de la rédemption, non seulement il le reçoit de Dieu, mais il reçoit Dieu lui-même. Pour sa violence, il exige un prix si démesuré qu'il aurait été plus juste de nous gracier. Donc, on ne rachète pas au démon, parce que ce n'est pas exactement ça le sujet. On ne paye pas le démon pour qu'il abandonne. Mais si ce prix est offert au Père, on se demande avant tout pour quelle raison. Ce n'est pas le Père qui nous a tenus captifs. Ensuite, pourquoi le sang du Fils unique serait-il agréable au Père qui n'a pas voulu accepter Isaac, offert en holocauste par Abraham ? Mais remplaça ce sacrifice humain par celui d'un bélier. N'est-il pas évident que le Père accepte le sacrifice non parce qu'il l'exigeait ou en éprouvait quelques besoins, mais par économie, au sens économie du salut ? Il fallait que l'homme fût sanctifié par l'humanité de Dieu, il fallait que lui-même il nous libérât en triomphant du tyran par sa propre force, qu'il nous rappelât vers lui par son Fils, qui est le médiateur accomplissant tout pour l'honneur du Père, auquel il est obéissant en tout. Et saint Anselme, dans Cur Deus Homo, envisage la rédemption comme un rachat qui n'est pas un rachat de l'homme au gré du diable, donc il est d'accord avec Grégoire, mais un rachat de l'homme à l'esclavage du péché. Donc c'est vraiment un paiement d'une dette, finalement pas à quelqu'un, c'est juste pour annuler cet esclavage. La troisième image, c'est la substitution. Donc Jésus, vrai Dieu, vient de l'extérieur de la création. Étant donné qu'il est vrai Dieu, et vrai homme, il se met à notre place, et dans la souffrance, par sa passion et sa résurrection, il sort l'humanité, la création de ce désordre. Ce que nous dit... on peut parler d'une opération de substitution, il prend notre place, il s'est interposé, et il a payé pour l'homme pécheur. Donc c'est ce que nous dit la première lettre de Saint-Pierre. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Donc il y a bien cette idée de... qui prend notre place sur le bois pour que nous vivions pour la justice. Alors dans l'Ancien Testament, on avait déjà cette idée de pouvoir porter pour les autres à la place des autres, en fait. Donc c'est déjà ce que fait un peu Moïse en Nombre 11, où il dit je prends sur moi c'était après le veau d'or. Et le peuple, et Moïse dit, si tu veux, je suis solidaire de ce peuple, et donc prends-moi quelque part, punis-moi à leur place. Voilà. Mais en fait, ce que Jésus fait, dans la substitution, il ne va pas jusqu'à juste proposer ou offrir quelque chose de lui, il donne jusqu'à sa vie. Donc il va au bout de cette substitution en se faisant pécher pour nous. Donc ça, c'est la phrase de... La deuxième lettre aux Corinthiens, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Donc ce que Jésus vit sur la croix accomplit le psaume « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc il a vraiment expérimenté cette chose, a priori, il y a plusieurs interprétations de cette phrase. Bon, non seulement de réciter les psaumes, ça c'est sûrement ce qu'il faisait aussi, mais il a expérimenté de ne plus percevoir la présence du Père, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment mis dans cette situation d'être comme l'homme, éloigné, et quelque part, c'est en ça que quand on dit l'a identifié au péché, c'est-à-dire qu'il l'a identifié à l'homme pécheur, en fait, puisque Jésus, évidemment, sans péché. Et donc, comme le serviteur souffrant, Jésus est défiguré, La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. C'est le troisième poème au serviteur, du serviteur. Et donc, on a le péché qui a abîmé l'image de Dieu en l'homme. Et là, par la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et la crucifixion, Jésus est à l'image du pécheur, défiguré de son humanité, alors que c'est lui le modèle. Donc, il a été jusqu'à être cet homme défiguré, qui n'avait plus figure humaine, à le dire. Voilà. Et Jésus a voulu se mettre dans cette situation jusqu'au bout, en endurant ses souffrances, pour être en endurant des souffrances qui non seulement étaient affreuses, mais en plus injustes. Et il a fait comme le serviteur d'Isaïe : je ne suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Il l'a offerte et l'a fait monter vers Dieu, vers sa prière, avec « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc dans cette situation où Jésus s'est configuré à l'homme, non pas en étant pécheur, mais en portant le péché et en manifestant même physiquement qu'il défiguré, il a traversé ce passage, et en restant offert et tourné vers le Père, il est ce fils obéissant et aimant qui, à travers les ténèbres de la croix, marche jusqu'à la clarté. Voilà, s'il a marché dans les ténèbres sans la moindre clarté, c'est ce qui s'est passé dans toute cette passion, qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Et là, le texte dit un peu plus loin, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée là, il verra la lumière. Et du coup, c'est ça que la résurrection qui est au bout du chemin du Christ après la passion. Donc il se sait le juste innocent du livre de la sagesse qui catalyse pour ainsi dire contre lui toute l'initié, toute la haine des hommes, mais il garde confiance en son Père. Donc ça, c'est vraiment le thème de la substitution. Et puis le quatrième image, c'est le combat gagné contre Satan avec la libération. Donc là, je vous ai mis plusieurs références entre Hébreux, Jean et la première de Saint Jean. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme s'est manifesté. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareilles conditions. Donc là, on est sur la substitution. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libre, donc c'est vraiment le thème de la libération du péché, tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Et dans Jean, maintenant est le jugement de ce monde, maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Donc ça, c'est le prince qui a perdu, le prince de ce monde, Satan. Et si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Donc Satan avait fait payer à Jésus en essayant de le faire tomber, que ce soit déjà aux tentations du désert, mais aussi à Gethsémani, mais aussi durant toute le chemin de croix et tout ce temps de passion. Mais Jésus est resté fidèle, attaché à Dieu et a gagné contre Satan. Et du coup, il l'a dépouillé de ses armes et mis dans le camp des vaincus. Et ça, c'est la phrase très belle de Colossiens qui dit « Ainsi Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. » Donc là, on est sur les puissances, c'est Satan et ses anges. « Il les a publiquement donnés en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal du Christ. » Donc là, c'est l'image des vainqueurs qui traînaient les vaincus à leur suite. Voilà, donc c'est cette image-là qui est utilisée par saint Paul. Et effectivement, c'est précisément notre liberté abîmée que Jésus est venu sauver. Il est lui l'homme libre, capable de nous dire, comme à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Il a renversé le fils ingrat en fils prodigue qui revient à la maison. Comme ça, vous avez les deux derniers les évangiles des deux derniers dimanches. La victoire est totale, le diable est réduit à l'impuissance, effectivement jeté dehors. Et dans les icônes de la résurrection, on voit Jésus qui piétine les portes de la porte de la mort. Et voilà, il est tout à l'air écrasé et les serrures sont défaites, elle ne se refermera plus. Et donc on a la réponse du Père, la résurrection qui scelle cette victoire. Je vous ai mis en parallèle aussi, parce que c'est aussi le thème de la libération, c'est le thème de la guérison. Et d'ailleurs, le Père Giton, tout à l'heure, pour l'adoration, nous a parlé du bon samaritain qui soigne et qui donne les sacrements pour guérir. Et donc, on a toutes ces thématiques autour de Jésus qui est le médecin. Alors ensuite, je voulais creuser deux points majeurs. Alors, un que j'ai appelé « Justice et miséricorde ». Qui déborde un peu, parce que je ne suis pas sûre que le titre est complètement On parle de ça, mais pas que de ça. Alors déjà, c'était de parler du retour à l'ordre et donc pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait justice. Donc pour comprendre de l'intérieur ce qui s'est joué dans la rédemption, ce que Jésus a réussi, il faut nous pencher sur le péché originel. Donc là, c'est toute la thématique de Romains 5-6 sur la désobéissance d'Adam qui a mené au désordre. Et donc le lien entre Dieu et la création, entre Dieu et l'homme qui s'est rompu par cette désobéissance. Et ce lien rompu qui impacte individuellement chaque homme, mais aussi tout ce collectif, toute la création. Donc on est dans une forme de contamination, où finalement chacun est coupable et victime. Et c'est très difficile de s'en sortir. Comme disait le père Gitan à la retraite, c'est comme dans un embouteillage. On ne sait plus très bien qui a commencé et comment ça s'est passé, mais on n'arrive plus du tout à bouger. Et donc il faut quelquefois une intervention extérieure pour arriver à décoincer la situation. C'est un peu ce que nous dit Jésus quand il parle des gens tués par la chute de la tour de Siloé, où il nous dit « C'est 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?» Donc on est bien sur victime et acteur. « Eh bien, je vous le dis, pas du tout, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Donc en fait, on parle bien de cette chose de solidarité dans le mal. Alors il y a aussi la solidarité, évidemment, dans la communion des saints, mais là, on est sur ce pan-là. Donc la situation est dramatique. Le péché originel d'Adam et Ève n'est pas un mauvais exemple. C'est pas juste, il faut donner le bon exemple et puis on va y arriver. C'est pas du tout ça. C'est un processus qui a cassé l'ordre. Donc il y a cette notion de désordre dans la relation de l'homme avec Dieu. Et donc il faut que la justice s'exerce pour que la miséricorde puisse donner toute sa mesure, toute sa surabondance. Donc la justice, une vision pas toujours ajustée, c'est pour le dire, puisque la justice là c'est plutôt ajustée à Dieu. La justice n'est pas de punir l'homme, au sens strict, ni de laver l'honneur de Dieu, même si un certain nombre de pères de l'Église ont parlé aussi de voilà, cette idée de laver l'honneur de Dieu, mais ce n'est pas exactement ça dont il s'agit. Saint Paul parle aussi d'apaiser la colère de Dieu. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu ? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en n'ayant part à sa vie. Mais là, ce qu'il dit, c'est qu'il a une colère contre le péché. Contre le péché, oui. Pas contre l'homme, le pécheur. Voilà. Pareil, Jésus n'est pas maudit au sens, quand on a dit il s'est fait pécher. C'est pas pour ça qu'il est maudit. Il est apparu aussi abîmé que le pécheur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il n'est pas, il n'y a pas une sorte de vengeance qui est effectuée par Dieu et Jésus serait le bouc émissaire. Alors saint Anselme, dans toujours le cours Deus Homo, pose que l'homme doit présenter une offrande qui surpasse le tort qui lui a été fait. Alors cette idée de surpasser n'est pas l'idée de saint Anselme, c'est il faut pas juste réparer au sens un pour un et se remettre à niveau. Il faut du coup, puisqu'on est dans le domaine de l'amour de Dieu, du coup il y a une idée de il faut aller au-delà. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de rééquilibrage de balance. Il faut aller au-delà. C'est ce qui se passe aussi quand on est dans la confession où finalement on essaye de voilà on donne en plus des pénitences. Enfin on a une pénitence en plus qui est pas forcément exactement corrélée à ce qu'on a fait, qu'on doit d'ailleurs par ailleurs réparer si on peut. Donc voilà, il y a quelque chose de surabondant aussi dans la pénitence ou dans l'offrande. Donc aucune créature finie ne peut y satisfaire puisque le désordre est tel et la désobéissance est telle que c'est très compliqué, l'histoire de mon embouteillage. Enfin, c'est pas le mien, celui du père Giton. Donc un simple homme ne pouvait réaliser ce passage sans sombrer dans le néant. Si même on supposait que l'offrande pût être offerte à notre place par un être divin, elle ne servirait encore de rien puisqu'elle n'aurait pas de rapport avec l'offenseur. Donc la substitution qui serait juste Dieu le fait à notre place sans avoir part en étant homme, par exemple, bah du coup, ça marcherait pas, quoi. Voilà, il y a une idée de... La justice ne serait pas satisfaite au sens où ça n'aurait pas de sens. Enfin, on ne serait pas au cœur du sens, on n'aurait qu'une apparence de... Donc la seule solution était qu'un homme, Dieu, apparaisse et qu'il offre sa vie par obéissance. Et c'est la célèbre phrase de saint Anselme, « Seul l'homme devait, seul Dieu pouvait ». C'est ce que Jésus a fait en étant à la fois vrai homme et vrai Dieu. Donc ce que veut le Christ, c'est que le dessein de Dieu s'accomplisse. Donc ce qu'il veut, c'est le retour comme le père du fils prodigue. Et il se réjouit de ce retour, mais il ne fait pas le chemin à notre place. Voilà. Et donc il ne fait pas tout le chemin à la place. Mais par contre, il contribue, il répare, mais il ne fait pas tout. On verra dans un troisième temps justement comment est-ce que nous aussi on a quelque chose à faire dans l'histoire. Donc la justice n'est pas le châtiment par vengeance, mais il faut qu'il y ait réparation dans le sens où ce n'est pas rien ce mal. Donc ça, c'est une autre idée de pourquoi il faut la justice. C'est que si le pardon est donné trop vite, il n'est pas précieux, il ne vaut rien. Et donc le péché, en fait, il est rien s'il est pardonné par simple décret. Donc si une sorte de... on est absous comme ça au milieu de nulle part, sans rien, ben en fait, ça voudrait dire que le pardon, il a, ce qu'on fait, en fait, n'a aucune valeur, en fait, et que donc le pardon ne coûte rien lui non plus. Et donc on aurait une sorte d'un Dieu qui serait ni en colère, ni amoureux de, face au péché. Enfin, voilà, il n'y aurait pas de sentiment face au péché des hommes. Et donc on serait dans le Dieu des philosophes, complètement indifférent aux hommes, et qui résout les questions d'un coup de baguette magique, et voilà. Et donc, il n'y aurait pas du tout la prise au sérieux de notre liberté. Or, Dieu nous prend tout à fait au sérieux. Il prend au sérieux notre liberté et ce qu'on doit faire. Et donc, le mal doit être sanctionné d'une certaine façon. Donc, ce prix permet une conversion réelle. Et je pense que c'est important de voir le reniement de Pierre. Voilà, c'est pas rien, le reniement de Pierre. Et d'ailleurs, Jésus lui a pas dit juste, tu savais pas, quoi. Non, il lui dit pas du tout ça. Il lui pose trois fois la question, m'aimes-tu, quand il est ressuscité et qu'il s'adresse à Pierre. Et c'est là-dessus, sur cette fragilité, mais aussi sur ce pardon donné avec quelque part une pénitence, parce que je pense que dans ces trois réponses, Pierre, il devait se sentir dans ses petits souliers de plus en plus mal. Et en même temps, il reste là, il répond, et donc il s'appuie sur cette reconnaissance de la faute, cet accueil du pardon et du coup la capacité de se convertir. Et donc c'est ce chemin-là que Jésus a fait sur la croix. Voilà, il a payé le prix parce que sinon c'est pas une prise au sérieux et du coup l'homme serait pas vraiment restauré dans toute sa dignité. Saint Paul, lui, qui a vu le Jésus crucifié ravagé de douleur à cause des persécutions qu'il lui faisait subir, il en a été bouleversé. Donc lui aussi, il voit bien que c'est pas rien, quoi. Voilà. Et dans la confession, c'est ce que je vous disais, c'est la même chose. Et le prêtre, en latin, c'est absolvo. Voilà, il y a cette idée de délier quelque chose pour qu'on puisse renouer la relation. Mais du coup, ça se fait avec un pas aussi de notre côté et il se passe quelque chose. Alors, ce qui se joue, c'est pas juste la justice, c'est aussi la miséricorde ou l'amour de Dieu. Et donc, c'est dans l'obéissance de l'homme-Dieu qu'on va avoir ça. Donc, pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. C'est toujours très intéressant de voir ce « il fut exaucé ». Parce qu'en fait, ce qui a été exaucé, c'est qu'il a dû subir la croix. Donc, pas exactement le sens qu'on donne en général à notre prière. On aimerait bien être exaucé, mais pas forcément de cette façon-là. Mais là, c'est bien ça dont il s'agit. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Et c'est aussi nos Philippiens, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc par la désobéissance d'Adam, on prend le thème de Romains 5, le péché a corrompu l'ensemble de l'humanité. Et donc comme la mort était entrée dans le genre humain par la désobéissance d'un seul homme, de même, il faut qu'il y ait l'obéissance d'un homme pour retrouver la vie. Et donc là, les thèmes de Romains, parce que là, je vous cite plein de phrases, mais voilà, il dit « Régneront-ils dans la vie ?» Donc c'est l'idée de la vie. « En abondance, le don de la grâce qui les rend justes. » Donc on a la justice, et après, on a l'abondance du don de la grâce, et donc quelque part, la miséricorde et l'amour en plus. Voilà. Et encore l'idée de juste, dans 5-19. De toute façon, Romains 5-6, c'est que sur le sujet. Le péché original a apporté la mort avec la séparation de Dieu et le Christ a apporté la vie par son obéissance à Dieu. Donc ce n'est pas une réparation équilibrée quelque part. C'est une réparation avec une surabondance d'amour et donc on est bien dans cette deuxième dimension. Donc ce qui fait la perfection du sacrifice du Christ, ce n'est pas l'effusion de sang, ni même que ce soit le sang d'un innocent, c'est l'obéissance. Voilà, et l'obéissance, c'est l'accomplissement de la volonté du Père dans le don de soi. Et ce don est parfait parce que l'obéissance est parfaite. Et c'est en ce sens-là que le sacrifice est parfait et qu'il peut opérer à la fois toute justice, parce qu'il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et il peut opérer aussi avec toute la miséricorde. Et c'est qu'on voit bien sanctionné par la je ne sais pas si le terme sanctionné est particulièrement heureux, mais par la résurrection. Le Christ en tant qu'homme obéit au Père à la manière du Fils éternel et donc parfaitement. Mais en tant qu'homme, il le fait. Et pour que l'offrande du Christ opère le salut, il faut que ce soit un homme qui obéisse à Dieu pour inverser la logique du premier péché et qu'une volonté humaine s'insère dans la volonté divine. Et à Gethsémani, on voit comment la volonté humaine de Jésus s'est accordée à la volonté divine, jusqu'à l'épouse et en toute liberté. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, dit-il avant, un peu avant, dans Saint Jean. Donc, et cette obéissance, en fait, c'est dans ce sens-là qu'on parle de miséricorde, c'est que cette obéissance, elle est tout amour. Donc, à la fois, elle effectue la justice, mais elle est aussi la surabondance de l'amour. Et c'est la phrase de Saint Jean, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et donc, le Père, il veut pas la violence de la mort, il veut pas. Ce qu'il veut, c'est l'amour absolu du Fils, c'est-à-dire le don total. Et donc la mort n'est que, la mort et la souffrance en l'occurrence, est le signe de renoncement total à soi-même par amour de l'autre. Et donc le corps du Christ est la clé de voûte, parce que c'est lieu de rupture avec le péché et de l'ouverture à la vie, mais qui s'est mis dans un corps d'homme. Et donc il y a une vraie réalité du côté de l'homme. Et donc Jésus a joué d'une humanité splendidement agréable au Père. Il est le vrai homme. C'est pour ça que la phrase de Pilate et Chiomo, bah, elle dit beaucoup plus que ce qu'il pensait dire d'ailleurs. Mais voilà, c'est le vrai homme. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La fin de l'hymne aux Philippiens. Alors ensuite, dans un troisième temps, ce que je voulais voir, c'est que c'était une meilleure alliance. Donc comme je vous ai dit déjà un peu, ce n'est pas juste le rééquilibrage, mais c'est une meilleure alliance. Donc ça, on le voit dans la lettre aux Hébreux, on nous dit « c'est une fois pour toutes ». Donc, dans ce sens-là, c'est meilleur déjà parce que dans l'ancienne alliance, il fallait offrir des sacrifices tout le temps. Donc, ça, c'est le fil conducteur de beaucoup de la lettre aux Hébreux. C'est une fois pour toutes, à la fin des temps, donc quand le Christ est venu, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Et c'est pour ça qu'il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers lui. Donc ce sacrifice unique est efficace parce que Jésus s'est donné lui-même, et c'est ce qui est dit, c'est la phrase qu'on nous a rappelée à l'adoration, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeune taureau, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. Et avec le filigrane que c'est pas juste le fait de se sacrifier, mais c'est aussi parce qu'il a été obéissant jusqu'à la volonté du Père. Donc la passion, elle a lieu une fois pour toutes, mais la disposition de Jésus demeure. Et donc la passion, elle a valeur d'éternité, non pas qu'elle ait de nouveau lieu chaque fois qu'on a une messe qui est célébrée, Dieu merci, enfin, c'est pas en train de refaire le sacrifice de la croix, mais elle est actualisée, présente aujourd'hui dans sa disposition au Père. Donc en fait, ce qui reste, c'est le fait que cette offrande de Jésus à son Père, elle est de toute façon celle que le Fils a toujours eue comme attitude vis-à-vis de son Père, y compris durant le temps de la passion. Et donc ça, c'est ça qui est quelque part toujours présent et qui fait qu'on peut rentrer dans cette efficacité du sacrifice de Jésus qui est toujours offert en offrande à son Père. Et c'est aussi ce qui fait que l'alliance, elle est meilleure. C'est que non seulement elle est faite une fois pour toutes et c'est définitif et c'est fait, mais elle est comme continuée jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions y participer. Elle se continuera jusqu'à son retour où la nouvelle alliance éclatera dans toute sa plénitude. Ce que nous verrons la prochaine fois sur le retour du Christ. Et donc, quand on médite le chapelet ou qu'on récite la litanie des saints, etc., en fait, nous vivons avec Jésus ces différents états. Et c'est une manière de rentrer dans ces dispositions de Jésus et de rentrer dans son offrande. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on communie, où on entre dans les dispositions d'offrande, pour ça qu'il y a l'offertoire avant, et d'obéissance pour porter des fruits de salut. Donc l'autre façon de dire que c'est une espérance meilleure, et donc là on a Jésus lui-même qui dit « cette coupe est la nouvelle alliance dont on sort répandue pour vous ». Ça c'est dans Luc et puis dans Saint Paul quand il reprend les phrases de l'Eucharistie, de la scène. Et dans Hébreu, on a là d'une part l'abrogation du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Donc il n'y passe pas par 3-4 chemins hein, puisque la loi n'a rien mené à la perfection, donc c'est... Ça a juste manifesté le péché, mais ça n'a pas permis d'aller vers une vraie alliance. Et là, on a l'introduction d'une espérance meilleure qui nous fait approcher de Dieu. Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est le médiateur d'une alliance meilleure reposant sur de meilleures promesses. Alors quelles sont-elles ces nouvelles, ces meilleures promesses? C'est ce qui nous est dit là sur le fait qu'on s'approche de Dieu. Alors attendez, là je suis en train de me confondre deux paragraphes, donc c'est pas du tout ça là. Alors je me reprends. Ben là, j'ai l'impression que je reprends des choses que j'ai déjà dites. Alors, on va redire quand même, au cas où. Oui, là, c'est l'idée de... Non, si, ça introduit quand même l'idée... Le meilleur, c'est l'idée de la Trinité, en fait, qui est là. Seul Jésus-Christ pouvait, par son union hypostatique, recevoir et se redonner dans un unique acte trinitaire la vie divine. Et donc, on a vraiment là... Non seulement c'est Jésus, vrai homme, mais on a finalement accès à la Trinité. À tel point que la miséricorde de Dieu est incommensurable, à tel point que ni plus grande ni plus juste elle ne pouvait se penser. Ça, c'est des phrases de saint Anselme. Alliance incroyable que Dieu propose à l'homme pour le sortir de l'état de péché, état de désobéissance à la volonté de Dieu et état de désunion. Donc en fait, ce qu'il lui propose, c'est pas un retour au paradis initial où on avait juste Adam qui se voyait Dieu, il se baladait dans le jardin, mais on a une union. Voilà. Qui n'était pas mentionné, non. Donc on a quelque chose de bien plus fort que la première alliance. Même l'alliance de la création, et même l'alliance qui était avec les prophètes, qui était de respecter les commandements, de vivre à l'image de Dieu, mais il n'y avait pas cette idée d'union à Dieu. Voilà. Et donc on a... c'est pour ça qu'on a on peut parler que la mort du Christ nous ouvre le chemin du ciel. La mort du Christ est le lieu de passage de la terre au ciel, de l'humanité blessée à l'humanité transfigurée. Donc, il nous embarque quelque part dans cette aventure. Et la mort sur la croix et la résurrection est l'événement qui inaugure la vie divine dans toute l'humanité. Donc, ce double mouvement, donc on voit bien qu'il y a un mouvement descendant. En fait, Dieu, par amour, offre la justification et la réconciliation. Et puis, on a un mouvement ascendant qui est celui de la foi et de la justification, mais qui nous entraîne vers Dieu. Et dans l'intimité de Dieu. Donc la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, et le pardon des péchés est de la part de Dieu une pure grâce, un acte d'amour absolument gratuit, car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. Donc Dieu a toute l'initiative, hein, c'est un don généreux, et il nous a enrichis par sa pauvreté, non pas de sa pauvreté. Voilà, il nous a fait devenir riches par sa pauvreté. Donc lui qui s'est fait le plus pauvre, il nous a enrichis de sa divinité. Et dans le mouvement ascendant avec sa réponse d'obéissance, non seulement on restaure le lien entre Dieu et l'homme, mais il y a une notion de réciprocité, parce que Dieu est fait tout proche. Donc par le sacrifice de Jésus, Dieu s'est approché pour que nous l'approchions. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Et là, je ne voulais pas mentionner, mais c'est aussi l'idée, c'est vous, cette fois-ci, c'est la multitude, c'est chaque homme, ce n'est pas juste les Juifs. Donc on a aussi l'extension du salut à tous les hommes. Et dorénavant, contrairement à l'Ancien Testament, nous pouvons voir Dieu sans mourir. Même Moïse, qui parlait... avec Dieu face à face, en fait, ils n'étaient pas tout à fait face à face, parce qu'il décrit, quand il décrit que quand Dieu dit « je vais passer devant toi », en fait, il lui met la main sur les yeux pour qu'il ne le voit pas de face, et c'est quand il a, voilà, qu'il le voit de dos, quelque part, donc comme une ombre. Donc, alors que nous, on peut voir Dieu sans mourir, et c'est ce qu'on fait quand on adore l'hostie. Donc ça aussi, c'est non seulement une proximité, mais aussi cette capacité presque, pas d'égal à d'égal, mais enfin, on peut voir Dieu, voilà. Donc ça reste voilé sous l'apparence du pain et du vin, mais il n'est plus caché dans le Saint des Saints. Donc le voile s'est déchiré, ce que je vous ai dit la dernière fois, mais voilà, et maintenant on peut avoir accès à Dieu et être en communion avec lui par la communion, Sainte Communion, et avec l'Esprit Saint, puisque nous sommes le temple de Dieu. Et là on a bien ce mouvement qui entraîne non seulement le peuple juif, mais tous les hommes. Voilà. Et avec l'ascension, donc si on va un cran plus loin encore que la résurrection, avec l'ascension de Jésus, le mouvement ascendant est achevé. Et oui, ultimement fait pour lui, mais pas encore pour nous. Il y a un homme en Dieu, puisqu'il y a un corps d'homme dans la Trinité. Donc maintenant, on a une vraie... quand on dit qu'il y a une réciprocité, une forme d'égalité, bah, il y a un homme en Dieu. Alors, le dernier petit barrage, c'est notre participation. Donc, cette alliance, elle est meilleure aussi parce que, en fait, Dieu nous veut contributeurs de son œuvre de salut. Alors, certes, on a dit, et ça c'est clair, Jésus a tout payé et tout est accompli. Donc, on n'attend rien de nous de ce côté-là. Ça, c'est fait. Mais il le fait pour nous et avec nous, comme ce qu'il avait accompli devait se continuer en nous. Donc, c'est ce que saint Paul dit. Dans l'Épître aux Colossiens, quand il dit « Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Donc, c'est pas qu'il reste... Le salut, il est accordé. Le Christ, il a tout souffert et donc c'est fait. Il n'y a pas de... Il est ressuscité. Mais il reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le corps de l'Église et où il y a notre participation qui est attendue. C'est aussi ça, quand on parle d'actualisation. C'est qu'on est des agents secondaires, donc non nécessaires, clairement, mais on peut agir. Et le Seigneur, il veut nous associer à la réalisation de son salut. Et donc, il nous donne cette mission-là et il nous traite capable de contribuer à son œuvre. Il s'en remet quelque part à nous. Donc, c'est le très... déjà symboliquement, enfin symboliquement non, parce qu'il l'a aidé peut-être vraiment à porter sa croix. Et voilà, Simon de Cyrène qui aide à porter la croix, bah, il y a une forme de contribution. Voilà. Donc Jésus, il entraîne dans son œuvre de salut. Il dit pas juste moi tout seul et vous allez voir ce que vous allez voir. Il accepte cette aide de Simon de Cyrène et nous on a achevé. Donc achevé pas dans le sens que la croix n'est pas n'a pas une fécondité plénière et définitive. On n'a rien à compléter au sens strict du terme parce qu'il y a rien d'inachevé. Voilà. Donc c'est pas une question que tout n'est pas achevé ou tout n'est pas accompli, mais il y a quelque chose de la plénitude qui n'est pas encore là, puisque tout le corps de l'Église, tout le corps du Christ qui est l'Église, tout le corps mystique du Christ qui est l'Église, eh ben, elle n'est pas encore embarquée dans ce mouvement. Et c'est en ce sens-là que la plénitude n'est pas, pas accomplie. Et donc l'Église, elle est quelque part ce lieu de la plénitude en jachère, en tant que corps historique, cosmique et eschatologique du Christ. Et donc, tout est dit, tout est fait sur le Golgotha, mais nous sommes appelés, en tant que corps d'humanité innombrable, à vivre dans le Christ et ainsi à contribuer à l'extension définitive de ce mystère aux dimensions de tout l'univers. C'est aussi la mission, aller de toutes les nations, baptisez-les. Quelque part, c'est aussi faire que le salut atteigne chacun d'entre nous, au sens humain du terme, historique du terme. Toute souffrance humaine est celle du Christ en son corps qui est l'Église. Cet appel à achever ce qui manque aux souffrances du Christ est donc lancé à tout homme. C'est en nous et avec nous que s'accomplit pleinement la résurrection. Il en va ainsi pour la résurrection comme pour la croix. Il ne s'agit pas d'ajouter quoi que ce soit, mais il faut que s'accomplisse en nous et d'une certaine façon avec nous ou à travers nous ce qui est déjà accompli pleinement mais en semence. Plus grand, c'est l'accomplissement total, c'est la résurrection accomplie. Donc non seulement le Christ nous a sauvés, nous a restaurés, mais il nous rend participants de son œuvre de salut. Donc il nous rend pleinement fils et filles de Dieu à son image. Alors ce qu'il faut voir, c'est que souvent, et je ne vous en ai pas parlé, mais on a une image de... Voilà, la croix, souvent l'esprit de la rédemption, c'est Jésus qui a tellement aimé le monde que voilà, et que l'amour sauve. Mais en fait, oui, c'est une preuve d'amour. Mais ce n'est pas exactement ça le sujet. Ce n'était pas juste de nous prouver ou nous manifester son amour. Parce que ça, il l'avait déjà fait en plus, Dieu, dans l'Ancien Temps, quand il a libéré le peuple de l'Égypte. Voilà, il avait déjà manifesté ou prouvé son amour. Mais là, il opère. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui est une opération. Voilà, de retournement, de rétablissement, de courant entre Dieu et l'homme pour l'éternité. Donc il y a un aspect opérant de la chose et pas juste une preuve d'amour. Voilà. Je vous ai mis une phrase de Hans Urson Balthasar. Cet éloignement extrême du Fils incarné par rapport au Père signifie aussi immédiatement son retour à lui. Donc ça, c'est l'idée que dans la rédemption, en fait, il y a cet anéantissement, cette kénose, comme nous dit très bien Nino Philippien, et en même temps, il y a immédiatement, c'est pour ça que c'est pas très long entre la croix et la résurrection, il n'y a même pas des 3 jours, enfin au sens durée du temps. Voilà, et il y a ce retour à Dieu et ce passage du corps outragé au corps glorieux qui ouvre la porte du ciel. Et ainsi, la croix devient le symbole de la vie. La rédemption, c'est tout le mouvement de l'incarnation à la résurrection qui culmine dans la passion. donc évidemment la carnation, ça prépare les choses, et ça, toute la vie publique a aussi préparé ça pour qu'il y ait un prolongement à la résurrection. Et là, je vous rappelle ce qu'on va nous chanter à la vigile pascale, aux bienheureuses fautes qui nous valut pareil rédempteur. Et donc, on a bien cette idée de... c'est au-delà de juste revenir au paradis initial, quoi. Il y a quelque chose d'encore plus, merveilleux dans la miséricorde de Dieu, où Jésus crucifié reste tourné vers son Père pendant tous les événements tragiques de ces jours saints, et il cloue sur la croix à travers son propre corps le péché, et il nous entraîne avec lui vers la vie éternelle, et quelque part il nous remet dans les bras de son Père. Et donc avec Thomas, mettons nos mains sur le côté transpercé de Jésus et confessons mon Seigneur et mon Dieu, un Dieu infiniment miséricordieux qui par l'offrande de son Fils vient nous rétablir en justice et nous bénir. Je voulais parler.